se déploie dans le Journal de Québec depuis hier, dans lequel on apprend... Ben, dans lequel, moi, j'ai retenu deux choses principalement qui sont extrêmement préoccupantes. La première, le taux de suicide chez les médecins est beaucoup plus élevé que la moyenne du restant de la population. Pourquoi? C'est ce qu'on va tenter d'élucider tout de suite. Avec Christiane Laberge, docteur en hypatricienne et aussi chroniqueuse santé qui est au téléphone. Bonjour, docteur Laberge.
Bonjour.
Comment on explique que le taux de suicide chez les médecins soit si élevé et qu'il soit aussi en augmentation depuis les trois ou quatre dernières années, selon vous?
Ben, d'abord, nos suicides réussis sont plus nombreux parce qu'on sait exactement quoi faire. Donc, on sait qu'on ne manquera pas notre coup. Donc, c'est un peu comme d'autres. Les vétérinaires, c'est la même chose. Un vétérinaire qui veut se suicider, il ne manque pas son coup. Donc, il y a moins d'appels à l'aide de ce côté-là et il y a plus de suicides réussis. Première cause. Deuxième cause, la détresse. La détresse qui est stigmatisante pour tout le monde. Si vous faites une dépression majeure vous-même, vous êtes en arrêt de travail, vous risquez d'avoir la stigmatisation de vos collègues, des gens autour de vous. Donc, ça, c'est le poids de la stigmatisation de la maladie mentale.
Oui.
Troisièmement, il y a aussi, si je manque le travail, je vais augmenter la charge de travail des autres. Je peux pas leur faire ça. Quatrièmement, il y a aussi, en guillemets, la dignité. C'est-à-dire que si en même temps, ça brasse à la maison, ça brasse avec les enfants, tu reçois une poursuite du collège ou une invitation du collège pour laquelle tu ne connais pas le motif, parce que ça arrive aussi, ou qu'on arrive en disant « envoyez votre dossier », tu sais pas vraiment la teneur de la plainte. Alors, ce mystère autour de la convocation du collège, c'est toujours aussi un problème.
Okay.
C'est toujours une source d'anxiété. La peur de te tromper, tu l'as sur les épaules tout le temps que tu pratiques, tout le temps, même quand tu es en vacances, parce que tu as la peur d'avoir laissé passer un dossier. Tu dois reposer sur un système fonctionnel. Que je suis drôle. Alors, oui, tu dois reposer sur un système fonctionnel. Je te donne juste un exemple.
Oui.
T'es médecin, tu dois envoyer un fax de prescription d'antibiotiques à la pharmacie. Tu dis à la secrétaire, il faut que tu m'envoies ça tout de suite, il faut que la personne commence ça aujourd'hui le plus tôt possible. Tu fais ta journée, tu as ta journée d'hôpital, tu reviens le jeudi, ta feuille est sur le coin de la secrétaire, bureau de la secrétaire. Tu dis, ça a été fait, hein? On peut le ranger. Hein? Ange oublié. Qui est responsable du 48 heures de délai?
C'est le médecin.
Ben, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est un petit exemple.
Je comprends. Il y a effectivement des accros à plusieurs endroits dans le système.
C'est toujours de la faute des secrétaires, je dis pas ça. Mais je dis juste que tu dois avoir les
yeux partout.
C'est ça.
Expliquez-moi, dites-moi, est-ce que vous achetez cette théorie aussi selon laquelle la réforme du Dr Barrette a mis tellement de pression sur les médecins que ça pourrait expliquer aussi pourquoi le nombre de médecins qui se sont enlevés la vie s'est accru? Particulièrement là, dans les, on va dire, trois dernières années environ?
Oui, le nombre de détresses est plus élevé,
okay.
Ça c'est clair.
Okay.
Et le nombre de docteurs qui prévoient la retraite plus précocement qu'ils ne l'auraient prévu au départ, c'est affolant. On regardera cette année combien il y en a qui vont prendre la retraite. Ça va donner un grand coup, je te dis.
Ah oui?
En tout cas, de ce que je vois du plancher, comme on dit, les collègues à qui je parle, etc., etc., là, il y en a beaucoup chez qui ils n'avaient jamais envisagé la retraite et maintenant c'est fait. Ils vont l'envisager d'ici 1 à 2 ans. Alors, c'est très difficile actuellement. Tu vois, je vais juste te donner un exemple.
Oui.
Supposons que tu te trompes. Ta patiente, elle s'en va à la retraite, mais elle n'est pas encore à la retraite. Est-ce que tu vas poser la question, est-ce qu'ils sont assurés tout le temps parce que tu présumes que l'assurance va se finir avec sa retraite? Tu envoies une demande d'exception pour les médicaments. Tu t'es trompé parce que la patiente est encore couverte par son assurance. Tu reçois la lettre, elle n'est pas admissible. OK. Elle est encore dans son pont d'assurance. Mais en bas, il y a une petite ligne. Toute déclaration mensongère ou frauduleuse sera passible d'une poursuite de 1 500 à 5 000 Alors, on présume que tu es menteuse ou que tu es frauduleuse jusqu'à preuve du contraire.
Parce que tu as fait une erreur.
Parce que tu as fait une erreur de bonne foi. Là,
c'est ça.
C'est clair, exact. Que ce n'est pas un mensonge.
Oh, oui.
Mais est-ce que, par exemple, la personne à la RAMQ qui fait l'inspection peut dire « Ah, c'est mensonger ça. Elle a réclamé quelque chose qu'elle n'avait pas droit. » Comment ça va être perçu? Et c'est toute cette perception qui est le problème. Moi, si j'étais au Collège des médecins, chaque fois que j'envoie une lettre du collège à un médecin, j'essaierai de communiquer. Je dirais, nous avons communiqué avec quelqu'un du PAMQ qui vous téléphonera. La personne du programme d'aide aux médecins.
Ouais. Donc, c'est
Québec,
directement lié automatiquement.
Oui, ça va avec. Un appel vous parviendra du programme d'aide aux médecins. Et il faut réitérer l'étanchéité entre le collège et le programme d'aide. Mm-hmm. Et il faut augmenter au niveau du programme d'aide aux médecins le nombre de médecins aidants, le nombre de médecins pairs.
Mais dites-moi, Dr. Laberge, j'essaye une solution, puis vous allez me dire si ça se peut ou si c'est complètement fou, OK? C'est extrêmement contingenté, on comprend. C'est un milieu hyper compétitif pour les étudiants. La charge de travail semble faire en sorte qu'il y ait des médecins qui sont en détresse. Bon, est-ce qu'à un moment donné, on pourrait pas dire, ben, essayons de former plus de médecins, de diminuer un peu le contingentement. Donc, plus de médecins, moins de charges. Diminuer un peu les salaires pour diminuer aussi la pression du système de santé, sa société. Puis ça vient enlever un argument des gens qui disent « Les médecins ont des bonus, les médecins ont des primes de jaquette, ça gagne tout 300 000, donc ils peuvent pas chialer. » Ça a-tu du bon sens, ça, ou c'est complètement fou comme idée?
Ben, actuellement, je te dirais que la répartition du travail, effectivement, là où t'as raison, pourrait se faire de façon différente. Par exemple, moi, dans mon milieu, si je veux référer un patient qui est en détresse, psychologique, à qui je vais donner, par exemple, des antidépresseurs parce que c'est à peu près le seul moyen, plus les moyens qu'on appelle non pharmacologiques. Donc, j'essaie de le soutenir, j'essaie de l'enligner au CLSC parce qu'il n'y a pas d'argent. Travaille au dépanneur, ben, c'est bien de valeur, mais c'est une attente de 6 mois s'il n'est pas suicidaire. Alors, ça, c'est pas aidant du tout pour le système de santé parce que le patient risque de tomber entre deux chaises. La demande est faite pour un support psychologique, mais n'est pas obtenue. Donc, la responsabilité, tout le temps où le patient n'est pas pris en charge en conjointement avec un autre professionnel de la santé où tu as vraiment des besoins, ben c'est toi qui as toute la responsabilité, tu as toute la charge. Il y en a des ressources, mais elles sont peut-être pas utilisées de la façon, disons, optimale, mettons ça comme ça. Tu sais, par exemple, une orthophoniste pour un enfant qui fait de l'anxiété, qui a un trouble de déficit d'attention, et tu es sûr qu'il y a un trouble d'apprentissage associé. Ben, l'orthophoniste de l'école, là, elle se promène dans 3 écoles. Ouais. Pourquoi on la mettrait pas dans un local du CLSC qui pourrait être ouvert de 12h à 20h, où les parents pourraient être vus en dehors des heures pour lesquelles ils doivent travailler? Pourquoi on mettrait pas un local disponible plus en soirée où, par exemple, l'orthophoniste va aller dans les écoles, oui, mais pas obligé d'évaluer les enfants dans l'armoire à balais? Donc, on pourrait organiser le système éducatif, arrimer les services. Les services actuellement sont dans des silos. Oui. Alors, si on brisait simplement les silos, tellement plus facile.
Oui, ça rejoint ce que j'ai dit tantôt à Pascal. Il faudrait qu'on soit une passerelle entre les silos parce que c'est vrai que des fois, ça se
Oui, une passerelle et non pas un labyrinthe ou des silos.
Voilà. Merci.
Actuellement, on a les deux.
Oui, c'est ça, exact. Il y a deux silos, pas de passerelle.
Il faut prendre soin des médecins parce qu'effectivement, il faut aller en amont aussi. Il faut les former pendant leurs études. Ça, c'est primordial.
Parlant des études, avant de vous laisser aller, je vous soumets une autre théorie, Doc Laberge. Là. C'est un long shot, mais il y a une affaire que j'ai remarquée, puis je suis convaincu que c'est un cas qui se présente quand même plus fréquemment qu'on pense. Les étudiants en médecine sont vus par... c'est la manne pour notamment les institutions financières, OK? Parce que, évidemment, les institutions financières savent que les futurs médecins vont gagner de très bons salaires. Alors, on leur octroie des marges de crédit étudiantes, là, pratiquement infinies, là. Tu sais, genre, tu es étudiant, t'as 20 ans, puis on va te dire... Je te donne une marge de crédit à très bas taux. Tu peux t'endetter 200 000 piastres, il n'y a pas de problème. Tu vas en gagner 250 toute ta vie, blablabla. Ça fait en sorte qu'il y a des jeunes qui sont encore très jeunes, qui commencent leurs études en médecine et qui se retrouvent avec des dettes de fou. Je veux pas les irresponsabiliser, là, mais ils se trouvent quand même à un jeune âge avec des dettes de malade et se retrouvent aussi à un certain moment dans le processus où... S'ils se rendent compte que c'est peut-être pas la bonne carrière pour eux autres, ils peuvent plus reculer, là. Ils sont condamnés à gagner un gros salaire. Est-ce que c'est un problème qui est fréquent, ça? Est-ce qu'il faudrait pas encadrer ça?
Pas tant fréquent, par exemple. Okay. Mais les problèmes financiers, là, vous touchez un bon point. Par exemple, je te donne un exemple vraiment le caricatural, OK? C'est vraiment pas un cas réel, là. Tu as la madame docteur qui est mariée avec un non-docteur. Tranquillement, monsieur prend la gestion financière de la maison parce que madame travaille, plus elle travaille, plus il y a de sous, plus il y a de sous, plus Puis on est content, puis on est content, puis on travaille. Puis là, on s'en va dans le travail vraiment beaucoup, beaucoup, parce qu'on a une qualité de vie qui doit être honorée. Tu comprends?
Oui.
Et là, un peu le voisin gonflable, oui. Tout ça. Et à un moment donné, monsieur qui a toutes les connaissances administratives de madame, ben, puis madame qui surveille pas trop son affaire, un peu comme les artistes avec leur gérant des fois, là, oui. Ben, arrive la séparation. Monsieur part avec une 20 ans plus jeune. Et là, tu te retrouves gros gens comme devant, mais vraiment gros gens comme devant. Et avec... ça arrive autant des gars que des filles, là. Je suis pris l'exemple d'une fille parce qu'on est tout classiquement pas à notre affaire, là. Mais le problème de la planification financière avec des retournements ou des virages comme ça, c'est pas si pas fréquent pour envoyer quelqu'un en dépression, pour envoyer quelqu'un en trouble d'adaptation pour faire déraper quelqu'un.
Est-ce que ça démontre pas justement que les salaires sont gonflés dans le cas, surtout de certaines spécialisations? Les salaires sont gonflés de sorte que, oui, OK, oh, on se compare avec l'Ontario, on se compare avec le système privé aux États-Unis, mais à quelque part, là, est-ce qu'on a vraiment besoin de rémunérer un médecin spécialiste 600 000
par année? Est-ce qu'on a besoin de rémunérer un joueur de hockey à 26 ans, 10 millions?
Oui, mais le joueur de hockey, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent des tickets puis des T-shirts puis l'équipe le paye comme ça en fonction de ses
revenus-là. Il y a du monde qui achète des services. Il y a du monde qui achète des services.
Oui, mais c'est quand même...
Il y a du monde qui ont beaucoup de services. Hey, quand tu regardes une chimiothérapie là, à 3 000 piastres la balle, là,
ouais.
L'autre chose, c'est oui, le salaire des médecins, c'est une chose, mais le travail... Tu sais, je regardais un jeune là, qui vient de rentrer de spécialité. Là. Le gars, il est ORL pédiatrique, oncologique, après 2 ans de sur-spécialité, éloigné de son milieu parce qu'il était aux États-Unis. Il travaillait 70 heures par semaine pendant ces 2 années-là, à part ses 5 ans de formation en médecine, ses 4 ans de spécialité en ORL, ses 2 ans de sur-spécialité. Ce gars-là, il a-tu hâte de travailler?
Combien il va gagner? Mais combien il va gagner, Doc Laberge?
Ce gars-là va peut-être gagner 400 000 dans l'année. Ça dépend, parce que c'est un chirurgien. Alors, il va être payé aussi en fonction des chirurgies qu'il fait. Et or, les salles d'opération ferment à 3h30. Donc, ce gars-là peut opérer peut-être une journée par 2 semaines, 3 semaines, à moins d'urgence, là, je te parle. Non, quand non, il est de garde, c'est sûr qu'il va opérer. Ouais. Mais les opérations cédulées vont être une journée par 3 semaines. Autour, parce qu'il est le plus jeune rentré. L'autre chose qui est un peu mal fait, c'est que le plan régional d'effectifs médicaux calcule
les primes.
C'est un docteur égale un docteur. Donc, si moi, je travaille, par exemple, dans un système où j'ai des primes, et je travaille une journée par semaine, il y a un jeune qui veut venir travailler. Il peut pas parce que moi, j'ai un prime.
Oui, c'est ça.
Alors, il faudrait diviser. Supposons que moi, je veux m'en aller à la pré-retraite.
Oui, c'est ça.
OK, je vais travailler 2 jours semaine. Toi, tu travailles avec moi 3 jours semaine, mon jeune, puis tu fais de la recherche 2 jours,
voilà.
Ou tu fais d'autres choses 2 jours,
voilà.
Ce qui est tout à fait plausible. Tu fais des soins palliatifs 2 jours. Tu sais, il y a des choses pour lesquelles tu pourrais diviser tes tâches. Mais ça, on n'est pas encore aux divisions de tâches de ce type-là.
Jour,
ce qui fait que c'est tout ou rien.
Un jour, Doc, on va se reparler des fameux primes et des placements des étudiants en région. J'en aurai long à discuter avec vous là-dessus. Merci, Doc Laberge.
Absolument. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis bonne journée. On espère le mieux pour nos docteurs.
Bonne journée, Docteur Christiane Laberge, qui est médecin de famille et chroniqueuse de santé.